13 Passions, une émission de Roger Bouichou, présentée par Denis Arcas et Roger Bouichou, sur Radio Marseillaise 101.3.
Bonjour messieurs.
Bonjour Nicole, bonjour Denis, et nouveau numéro de 13 Passions, et un numéro qui va vous intéresser, puisque nous avons chamboulé un petit peu notre programme, hein. Nous allons avoir Monsieur Lacoste, le président de la Fédération française de rugby à 13, en première partie. Et en deuxième partie, nous aurons Jean Guillaume, qui lui, au côté commission médicale, va nous parler des méfaits du Covid sur les différentes compétitions de la Fédération française de rugby à 13. Vous donnez un excellent programme.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nicole, bonjour Roger. Je disais à Nicole, ça serait pas mal si on pouvait les avoir les deux en même temps à l'antenne. Donc, Roger,
mais ils m'ont demandé, Jean Guillaume m'a dit l'un après l'autre, enfin, comme vous voudrez, moi.
Mais non, mais après, c'est éventuellement bon.
À Monsieur Lacoste, quand il parle, on n'arrête pas.
Dans tous les cas,
Comme vous voulez, vous verrez bien.
On peut garder Monsieur Lacoste quand ce sera le tour de Jean Guillaume, parce que peut-être
Monsieur Lacoste peut
avoir des choses à rajouter.
Oui, exactement, exactement.
C'est toi le grand chef Sioux, donc.
Oui, d'accord. D'abord, Denis, on va faire un petit tour par le partenaire du temps que Nicole.
Appelle Monsieur Lacoste. Par contre, si vous souhaitez que j'appelle Monsieur Guillaume, il faudra me le dire. Voilà.
On vous le dira.
Allez.
Ça marche.
On envoie les partenaires. Je ne me trompe pas de bouton et ça va mieux marcher.
Le rugby à 13 sur Radio Marseillette vous est présenté par...
Une poissonnerie à Carcassonne, Sabine et Thierry Banquet vous proposent une grande variété de poissons frais et ses plateaux de fruits de mer à emporter. Fraîcheur et qualité au rendez-vous. 110 avenue du Général Leclerc, 04 68 25 43 85...
Issu de 7 générations de menuisiers dans l'Aude, sur Carcassonne et Villegagnac, l'ASARL Menuiserie Tiquet et Fils vous propose une réalisation parfaite de qualité pour vos portes, fenêtres, claustrins, armoires et blocs de rangement. Aménagement divers et cuisine, multitravaux spécifiques, de la conception à la pose. SARL Tiquet et Fils, menuisier aménageur, avenue du Lauragais, 11600 Villegagnac, 04 68 77 14 08 et info@tiquet.fr ou site internet www.tiquet.fr.
Le rugby à 13 sur Radio Marseillette vous est présenté par
Bardot Immobilier, une agence immobilière à votre service sur Carcassonne. Pour la gestion, la location ou la vente de vos biens, Betty, Margali et Didier de l'agence Bardot Immobilier vous accueillent du lundi au samedi au cœur de la Bastide, 44 rue Jean Bringer à Carcassonne. Pour les joindre, 04 68 25 37 63. Bardot Immobilier, une agence immobilière à votre service sur Carcassonne.
L'épicerie fine chez Julien à Carcassonne vous attend le lundi de 14h30 à 19h et du mardi au samedi de 9h30 à 19h non-stop.
Très large gamme de vins du Languedoc.
Un grand choix de blanquettes.
Un espace fromage en partenariat avec la fromagerie toulousaine du meilleur ouvrier de France.
Et pour vos plateaux entre amis, pensez à la charcuterie et au jambon ibérique ainsi que noir de Bigorre et noir gascon.
Pour réaliser toutes vos idées cadeaux, Corinne et Julien vous réservent un accueil chaleureux.
Chez Julien, 100 chemin de Mâquins à Carcassonne.
04 68 26 34 32.
C'est à vous, messieurs.
Oui, Denis, on va dire bonjour aux auditeurs, puisque vous avez une petite oublié. Et bonjour à monsieur Lacoste, le président, le nouveau président de la Fédération française de rugby à 13. Bonjour, monsieur Lacoste.
Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Lacoste. Bonsoir.
Alors, monsieur Lacoste, voilà, vous êtes arrivé aux affaires de la Fédération française de rugby à 13. Quels ont été les premiers contacts et les premières décisions prises par ce nouveau comité directeur?
Alors, écoutez, merci d'abord de m'accueillir sur votre antenne et bien évidemment, je... Je, je, je souhaite tous mes voeux, puisqu'il est encore temps, à l'ensemble de vos auditeurs. Écoutez, d'abord, la première chose qu'il a fallu faire, c'est prendre connaissance de la fédération, des membres permanents de la fédération, etc., etc. Et dans un premier temps, la première des grandes mesures que nous prenons et qui est toujours en cours, c'est, comme je le disais l'autre jour à un de vos collègues, c'est la remise en route, la remise en marche de l'outil fédéral. Comme je l'avais dit à l'époque sur votre antenne, seul, entre guillemets, je ne peux rien. Et j'aurais même tendance à dire qu'à 24 au comité directeur, on ne peut pas grand-chose. L'important était de réunir et de regrouper le maximum de gens pour les mettre au travail à nos côtés. La première chose que nous avons faite, et donc en un temps record, a été de reconstituer l'ensemble des commissions, commissions statutaires ou commissions spéciales, qui vont mettre en pratique le projet pour lequel nous avons été élus. Et depuis un mois et demi, depuis le 12 décembre, malgré, entre guillemets, la période des fêtes de Noël et la petite dernière période qui vient de m'arriver, nous avons reconstitué l'ensemble des commissions. Elles sont quasiment toutes constituées, les présidents ont tous été nommés, et les commissions sont maintenant en application. Et c'est déjà une première partie qui était importante. C'est à peu près une centaine de personnes qui sont désormais au travail au travers de toutes ces commissions. La commission jeune, la commission médicale, la LER, etc., etc. La commission spéciale de réforme des statuts, des règlements et autres est actuellement au travail. Nous ferons un comité directeur et par la suite une assemblée générale pour réformer les statuts et l'ensemble des règlements pour se mettre en règle. Donc ça a été la première partie. La deuxième partie est que, toujours dans le cadre de la construction de l'outil fédéral, pour pouvoir agir, il faut être structuré. Et donc nous avons lancé ou demandé de lancer des élections pour créer des ligues là où il n'y en avait pas, ou plus, type des ligues dormantes, comme par exemple sur la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, ou pareil, quand il n'y avait pas de comité, en créer un dans tel ou tel département, ou lorsque le comité était, entre guillemets, dormant, puisque plus personne s'en occupait, de lancer des élections pour réanimer le comité. C'est une fois qu'on a les commissions créées, les comités et les ligues existantes parfaitement sur le terrain, qu'alors on peut avancer et avancer beaucoup plus vite. Et j'avoue qu'en un mois et demi, j'avoue que je suis assez satisfait du travail fait par l'ensemble des équipes pour reconstituer cet outil. Ça, c'est vraiment la première chose que nous avons faite.
Denis ? Alors, j'ai vu que récemment, il y a une première aussi rencontre qui a eu lieu au niveau international. Vous en aviez parlé dans la campagne, puisque c'était une de...
Absolument.
Voilà, c'était un de vos axes, c'est-à-dire réintégrer le niveau européen, donc...
Exactement.
Voilà, où est-ce qu'on en est là?
Alors, là aussi, effectivement, comme je l'avais dit, très vite, j'ai repris à tâche auprès des instances internationales. D'ailleurs, le premier contact a été pris avec le secrétaire général de la Fédération internationale, M. Denis Kadadjian. D'ailleurs, j'ai été élu le 12 et j'avais rendez-vous le vendredi suivant avec lui pour dire Francis Bach. Nous voulons absolument nous réengager dans les instances internationales. Par ailleurs, j'ai eu plusieurs réunions avec d'une part la RFL, donc la Fédération anglaise, et par la suite, effectivement, j'ai été réincorporé au board, au comité directeur de la Ligue Europe, Et dans la foulée, j'ai assisté, c'était le 25, au premier comité directeur de la Ligue Europe. Et donc, comme je le disais, Francis Bach dans les instances internationales. Et Dieu sait si c'est utile, parce que si nous voulons redonner donner plus de retentissement, plus de place au rugby à 13 français qui le mérite, il est indispensable que la France trouve sa place et retrouve sa place au milieu des instances internationales. Et j'avoue que là aussi, on l'a fait un peu à marche forcée, mais on l'a fait vite. Et d'ailleurs, j'ai d'autres réunions qui sont prévues la semaine prochaine avec des instances internationales, toujours pour préparer la Coupe du Monde, mais pas que. Et puis, pour renouer un dialogue, parce qu'il est indispensable de dialoguer. Voilà, donc c'est chose faite.
Alors, Président, comment avez-vous été accueilli, justement, par la RFL, qui regarde un peu les Français de loin?
Je ne crois pas qu'ils les regardent de loin. Ils les regardent. Parfois, ils sont
de très
étonnés.
Loin, alors.
Et ils sont étonnés de notre tempérament gaulois. Mais comme nous, on peut s'étonner parfois de leur tempérament anglo-saxon. Non, écoutez, peut-être parce qu'ils avaient entendu ce que j'avais pu dire un peu pendant la campagne, et finalement, ils m'ont accueilli les bras ouverts. Et ils sont tout à fait satisfaits de voir notre volonté de re-rentrer dans les instances internationales. Alors, ils m'ont questionné, hein. Ils m'ont beaucoup questionné. Ils m'ont questionné sur notre projet fédéral. Ils m'ont questionné sur comment on voulait avancer, comment ils pouvaient même nous aider. Même la RFL nous dit, écoute Luc, si on peut t'aider sur tel ou tel chemin, sache que nous, on est prêts à dialoguer à partir du moment où, effectivement, tu participes à nos travaux et aux travaux de la Ligue Europe. À ce moment-là, on est prêt à beaucoup plus dialoguer. Donc franchement, ça s'est très très bien passé.
Denis ? Oui, alors en rejoignant le board, là, justement, bon, vous retrouvez élu, comment...
Absolument.
Allô ?
Allô ? Oui, je vous entends.
Oui, oui, non, voilà, est-ce que vous retrouvez un poste membre du bureau ? Je ne sais pas.
Alors, on est en train de voir comment on répartit les choses. Je vais notamment plus particulièrement me pencher sur des problématiques de gouvernance. Et c'est important parce que je veux absolument que la France retrouve pleinement sa place. Alors la France a des droits, hein, et la France est en train de retrouver ses droits au niveau des votes, au niveau des droits divers et variés, notamment droit de veto, des choses comme ça. Donc, je participe maintenant désormais totalement à tous les boards, et je vais m'investir plus particulièrement sur certains sujets. Le premier sera notamment des problématiques de gouvernance.
Oui, parce que cette gouvernance, quand même, au niveau de la Fédération internationale, Fédération européenne, etc., bon, c'est extrêmement important, et ça en a besoin quand même, parce que même s'il faut reconnaître que ces dernières années, au niveau international, le rugby à 13, ça va un peu mieux, mais c'est quand même un bateau qui tangue quand même. Hein, donc,
Je ne sais pas si on peut dire que c'est un bateau qui tangue.
En matière de compétition, international, ça a du mal à...
Exactement. Mais vous savez... Lorsqu'on est un peu trop absent de ces instances internationales, c'est aussi difficile de nouer des contacts qui doivent nous permettre de faire des test matchs. Quand vous êtes un peu en dehors d'une structure, c'est difficile de manœuvrer la structure. Pour pouvoir manœuvrer avec la structure, il faut être dans la structure. On peut critiquer, on peut dire ce qu'on veut depuis l'extérieur, ça ne change rien. Pour pouvoir faire avancer une structure, il faut rentrer dans la structure. Et c'est bien ce qu'on a voulu faire en reprenant attache auprès des instances internationales. Et c'est parce qu'on recommence à dialoguer quasiment toutes les semaines pour l'instant, vraisemblablement par la suite, plutôt tous les 15 jours ou tous les mois, avec les nations européennes ou les nations qui sont dans la Fédé internationale, qu'alors on va pouvoir recommencer à dire, tiens, est-ce qu'on peut faire un test match contre vous à telle date, à telle date? On peut réactiver la machine. Donc moi, vous allez dire que j'ai toujours bon espoir dans ces moments difficiles, mais tant qu'on n'est pas à l'intérieur de la structure, vous êtes out of the structure. Donc la seule façon d'avancer, de pouvoir recréer des matchs, c'est d'être dans la structure. J'en parlais notamment avec nos amis de la Ligue anglaise, avec qui j'aurais bien aimé réussir à faire un test match avant la Coupe du Monde, en juin. Bah, il se trouve que comme ils avaient très peu de rapports, bon, finalement, le problème Covid pouvant venir perturber la chose, mais finalement, eux, ils vont vraisemblablement faire un match contre les Exiles. La Ligue galloise, on est en train de discuter, pour l'instant, ils avaient déjà prévu de faire peut-être un match contre la Jamaïque. Et ils ont avancé. Ils avaient très peu de rapports avec la France. Donc ils ont avancé, mais ils m'ont dit, nous, Luc, on préfère quand même essayer de faire quelque chose avec les membres du board. Donc, ça veut dire que petit à petit, on va y arriver. Mais encore faut-il s'en occuper.
Alors, Président, une question, après on continuera à parler de ces structures, hein, que les clubs ont demandé de vous poser. Bon, les relations sont renouées avec la RFL, hein, donc il faut un rugby professionnel pour avoir une bonne équipe de France. Est-ce que vous avez parlé des Dragons catalans et du Toulouse Olympique avec la RFL?
Bien évidemment, bien évidemment. Le sujet, comme vous l'avez vu, c'est que la Super League va reprendre fin mars et le Championship va reprendre début avril, une semaine plus tard. Bon. La problématique reste toujours une problématique Covid. Où en serons-nous au début fin mars et où en serons-nous début avril? Il est clair que la Super League veut démarrer son championnat. Le sujet avec les Dragons, le Toulouse Olympique, c'est davantage un sujet de logistique. C'est-à-dire, comment est-ce que l'on peut, c'est ce qu'on appelle le transborder line, c'est-à-dire le passage de la frontière. Compte tenu des conditions sanitaires, ma foi, fort complexes, entre les différents pays européens, et aussi entre l'Angleterre et la France, c'est un sujet dont nous discutons et nous avons d'ailleurs prévu d'avoir des réunions tous les 15 jours jusqu'au démarrage de la Super League et du Championship pour évaluer et mettre en place le protocole sanitaire entre nos deux pays pour permettre aux Dragons, comme d'ailleurs au Théo, de ne pas être trop contraints, parce que financièrement ça coûte sinon très cher, de respecter un protocole sanitaire, mais de pouvoir faire en sorte que ça passe dans leurs finances. Donc là encore, on a un groupe de travail entre la RFL, Super League, Dragon, Théo et nous maintenant, puisque je suis un peu plus en lien quand même avec le ministère que tous les autres.
D'accord. Denis ?
Oui, alors, vous avez également rencontré, alors ces jours-ci, on revient maintenant à l'intérieur, au niveau franco-français, vous avez rencontré, si je ne me trompe pas, pour la présidente du comité paralympique et sportif français, pour parler, voilà, et donc également le directeur des sports du comité paralympique et sport français, je crois.
Absolument.
Voilà, donc pour parler, je pense, c'était certainement pour parler pour le 13 fauteuil.
Oui, alors, c'est effectivement une première approche hein, que nous avons faite. Là encore, j'ai été reçu en un temps record, donc je les remercie beaucoup d'abord de leur écoute. J'étais accompagné également du vice-président de la fédération, tout ça en vidéo. Nous avons évoqué effectivement le 13 fauteuil. Alors, là encore, je crois que nous avons une écoute assez fine et sérieuse du comité paralympique. De là à dire que le 13 fauteuil peut devenir un sport paralympique à brève échéance, si je vous le disais, je vous raconterais des bêtises. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça, pourquoi ? Parce que pour être sport paralympique, premièrement, il faut que tous les joueurs qui jouent en équipe de France soient déclarés, entre guillemets, invalides. Vous ne pouvez pas avoir de valide dans un sport paralympique. Bon. Or, vous savez que notre spécificité, et à laquelle nous sommes attachés, et la valeur que développe le 13 fauteuil, est une valeur d'inclusion des valides dans un sport fait plutôt pour des invalides. C'est le contraire d'une inclusion. Généralement, on a inclus des invalides dans un monde de valides. Nous, notre spécificité au 13 fauteuil, c'est qu'on a inclus des valides dans un sport d'invalide. Et on y tient beaucoup à cette valeur. Parce que finalement, elle est inversée. Et d'ailleurs, les collectivités locales, des partenaires, s'intéressent beaucoup au 13 fauteuil. Parce que justement, il a cette valeur d'inclusion inversée et qui est juste remarquable. La seule chose, c'est que pour être sport paralympique, il faut être qu'avec des joueurs invalides. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a des sujets de classification qui se posent, du type d'invalidité qu'il y a, etc., etc. Donc, c'est un sujet complexe, mais c'est un sujet qu'on vient d'ouvrir. La deuxième difficulté qu'il y a, c'est qu'en fait, il faut que vous sachiez que le sport olympique a plutôt tendance à réduire le nombre d'activités plutôt qu'à augmenter le nombre d'activités, aussi bizarre que ça puisse paraître. Pour des raisons, là encore, d'infrastructures, c'est-à-dire que plus vous incluez de sport, plus vous êtes obligé de prévoir des infrastructures hôtelières, d'entraînement, de ci, de ça, et c'est des coûts complémentaires. Mais par contre, le paralympisme français travaille avec énormément d'associations auprès desquelles on va se rapprocher pour pouvoir développer avec ces associations le 13 fauteuil en France. Alors ça va prendre un peu de temps, mais en tout cas c'est les premiers échanges et les premiers points positifs qu'on a pu avoir avec Marie-Amélie Le Fur et le directeur des sports. Alors c'est un premier contact, on a prévu de se revoir, d'avancer, etc. Donc franchement j'ai trouvé une ouverture d'esprit remarquable. Et bien évidemment, on prendra attache également auprès de la Fédération Handisport, qui est donc séparée, hein, qui est une fédération Handisport, que je dois rencontrer également prochainement.
Alors, Président, pour avoir une bonne équipe de France, il faut avoir un bon championnat de France. Alors, quelles sont les premières mesures que vous avez envisagées pour justement pour structurer ce championnat de France?
Alors, là encore, les premières mesures envisagées. Comme je vous l'avais dit, nous souhaitons le plus rapidement possible passer de 10 clubs d'élite 1 à 12 clubs d'élite 1. Sans les nommer, nous avons déjà des, entre guillemets, candidatures spontanées qui arrivent de clubs existants, notamment d'élite 2, qui souhaiterait envisager de monter en élite 1 l'année prochaine. Pour pouvoir créer et améliorer chaque jour, et c'est déjà très bien, hein, chaque jour le niveau du championnat d'élite 1, il ne faut pas décider de faire monter n'importe qui, n'importe comment. Et donc, la commission de l'ALER est en train de travailler actuellement à la mise en place d'un cahier des charges qui sera proposé au club d'élite 2 qui émettrait la volonté de monter en élite 1, et ils devront essayer de remplir ce cahier des charges. Pourquoi j'ai souhaité qu'il y ait un cahier des charges un peu ambitieux? Mais parce que quand on accueille un club d'élite 2 en élite 1, le but du jeu, c'est qu'il soit en capacité d'y rester. Ça n'a aucun sens de lui dire oui, je vous prends en élite 1, et puis qu'on l'amène à l'échafaud. Donc, on est en train de travailler sur, et la commission LAIR est en train de travailler sur la mise en place d'un cahier des charges autour de, notamment, trois idées forces. Premièrement, évaluer la compétitivité sportive du club, 2, évaluer ses capacités financières avec quel budget il est capable de mettre sur la table, et 3, ses infrastructures, c'est-à-dire quel stade, quel type de vestiaire, quel ci, quel ça, nanana. Donc il y a une valeur sportive qui est l'évaluation de joueurs, est-ce que ça peut effectivement perdurer en élite 1, mais également tout le staff qu'il y a autour. Est-ce qu'il y a un kiné, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça. 2, une valeur financière, parce qu'on sait bien que pour passer d'élite 2 en élite 1 et pour vivre en élite 1, il faut quand même avoir un budget minimum. Et moi, ce budget, il faut me le, entre guillemets, garantir. Parce que sinon, s'il monte avec un petit budget, mais il va se faire écraser. Et faire une montée-descente, des allers-retours, c'est jamais bon. Donc il faut essayer de lui dire, bah, vous êtes un club en capacité de jouer en élite 1. Et ça, il faut pouvoir le vérifier. Sinon, on se retrouvera toujours avec une élite 1 dans laquelle, bah, finalement, on ne progresse pas. Et voilà ce sur quoi notamment travaille l'ALER actuellement.
Oui, le président, moi je vois 4 clubs, puisque vous avez parlé de le retour de grande ville, je pense à Toulon, je pense à Marseille, je pense à Montpellier, je pense à Lyon, accessoirement à Bordeaux. Que peut faire la fédération pour aider ces clubs à se structurer, à trouver des finances pour accéder à l'élite 1?
Alors, déjà, dans ce que vous dites, premièrement, vous avez effectivement un club comme Toulon, qui est actuellement en élite 2, et qui peut tout à fait envisager ou proposer sa candidature pour monter en élite 1. C'est vrai que sur Montpellier, il y a une vraie volonté, par exemple, je prends par exemple les Sharks, il y en a peut-être un autre, hein, les Sharks, eux, ils ont une vraie volonté de monter déjà en élite 2. Donc c'est clair que s'il y a 2 clubs d'élite 2 qui montent en élite 1, il faudra qu'on aille chercher en national la possibilité de monter en élite 2. Donc le déroulé, il est le même. Hein. Faisons-le progressivement. Ne cherchons pas à monter directement en élite 1 quand on n'est pas passé par l'élite 2. Il y a quand même quelques paliers à monter. Et derrière la fédération, ben déjà, elle peut aider les clubs, notamment par le fait que... elle doit leur expliquer les structures qui sont nécessaires pour pouvoir monter de division, et notamment entre l'élite 2 et l'élite 1. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, comme je l'ai dit à tout le monde, bien évidemment qu'il y a la problématique sponsor, il y a la problématique des subventions collectivités locales, qui peuvent être revues à la hausse à partir du moment où vous changez de division. Et comme je l'ai dit à certains clubs, que je ne nommerai pas, mais bon, le principe est valable pour l'ensemble des clubs, c'est que si à un moment, ils ont besoin d'une intervention de la fédération, et notamment de son président, pour les accompagner auprès de tel ou tel sponsor, auprès de telle ou telle collectivité locale, je suis là pour ça. Et donc, si on peut les aider à monter. Mais moi, je veux surtout qu'on ait une exigence. Monter en gamme, entre guillemets, monter en performance, c'est monter en exigence. Et pour ce faire, ce cahier des charges qu'on arrêtera ensemble avec les clubs d'élite 1 et d'élite 2, il faut absolument être un peu rigoureux et assez exigeant avec nous-mêmes, parce que sinon, ben, on stagnera. Donc, ça passe déjà par là. Et après, moi, je suis là pour aider les clubs, hein. Donc, je suis là pour aider les clubs. Je suis là pour les accompagner dans l'élaboration de leur projet, pour les accompagner dans l'élaboration de leur budget, pour les accompagner dans tout ce qu'ils vont devoir faire pour pouvoir être en situation de perdurer, soit en élite 2, soit en élite 1.
Alors, président, qui dit club de club monté en élite 1, en élite 1, une élite 1, pour commencer 12 voire 14 clubs, faut-il avoir quand même l'accès aux médias? Alors, qu'en est-il à l'heure actuelle? Le dernier média que nous avions, c'était via Occitanie. Oui. Avez-vous des approches avec via Occitanie et d'autres médias?
Absolument. Absolument. Nous avançons. Alors, je ne peux pas dévoiler les choses, parce que vous savez, la confidentialité dans les affaires, c'est une règle d'or. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, à relativement brève échéance, la diffusion du trèfle sera élargie à notre pays, dans notre pays, mais pas que dans notre pays. Nous sommes actuellement en cours de discussion pour pouvoir diffuser des images d'élite 1 à l'étranger. Et ça va se faire. Et ça va se faire. Alors, malheureusement, je ne vais pas toucher de droit télé, hein, actuellement. Mais actuellement, qu'est-ce qui se passe? La fédération produit des images qui aujourd'hui sont diffusées, notamment par via Occitanie. Mais c'est la fédération qui fabrique les images. Et qui paye d'ailleurs la fabrication de ces images. On est en train de voir comment on peut élargir la diffusion. Et ça va se faire. Mais il faut un peu de temps. Et ça fait un mois et demi qu'on est arrivé.
Et Monsieur Lacoste, par rapport à Via Occitanie, Via Occitanie, là, en début de saison, a diffusé un match par week-end, par journée. Hein.
Oui.
Et là, depuis 15 jours, c'est arrêté. Alors, il y a plusieurs rumeurs qui circulent, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? La raison qui fait que Via Occitanie a arrêté, et puis est-ce que ça doit reprendre ou pas?
Alors, bon, je vais être très clair. Le contrat avec Via Occitanie, DJ, en gros, hein, je vous le schématise, Via Occitanie diffuse le Magic Weekend, diffuse 5 matchs de saison régulière, entre guillemets, 5 matchs indépendants les uns des autres, et les phases finales. Ça a un montant, ça a un budget, payé par la Fédé. Il se trouve que comme le Magic Weekend n'a pas eu lieu, la précédente mandature, pour des raisons qui la regardent, la précédente mandature, la diffusion de ces 5 matchs, c'était 4 matchs, je crois, ou 5 matchs lors du Magic Weekend, 5 matchs lors du Magic Weekend, ils ont décidé de le faire, de diffuser tous les matchs pendant les semaines. Ce qui veut dire qu'il y a eu plus de matchs chaque week-end, mais pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui devait être fait en un week-end a été réparti sur 5 week-ends. Or, vous comprendrez bien facilement que ça coûte beaucoup plus cher de produire 5 fois un match que de produire 5 matchs en une fois. Parce que déplacement de personnel, parce que nombre de caméras, parce que ci, parce que ça. Et donc, à l'heure où je vous parle, la quasi-totalité du budget prévu par la fédération sur une année pour faire 5 matchs de saison régulière, le Magic Weekend et les phases finales, a été consommé. Tout l'argent prévu pour la diffusion a été déjà consommé. Bon, moi, je ne veux pas arrêter la diffusion. Par contre, ça me coûte beaucoup plus cher, puisque tout le budget a déjà été consommé. Bon, on est en train de trouver les solutions. C'est vrai qu'on continue à diffuser pour pouvoir aller jusqu'au bout de la saison. Je me dois, un, de trouver de l'argent pour produire les images, et deux, j'ai été obligé pour l'instant de réduire un peu, au lieu de passer à un match par semaine, c'est un match tous les 15 jours. Le temps de trouver l'argent pour pouvoir aller, même si ça commence à peser sur les finances de la fédération, mais pour pouvoir aller jusqu'au bout, et c'est-à-dire jusqu'au moment de la finale, il me faut trouver quasiment 100 000 euros, un peu moins. Donc, pour l'instant, on a réduit un peu la voilure, mais on fait quand même l'effort, parce que théoriquement, il ne devrait plus y avoir de match, puisque tout l'argent a été consommé. Mais on continue, on fait l'effort. On fait l'effort quand même de continuer, donc c'est un match tous les 15 jours, à peu près, et on est en capacité d'aller jusqu'à la finale, même si il nous faut quand même trouver des sous.
Alors, Président, on est en train de trouver. Dans la visibilité de l'éditeur, c'est une des conséquences, on va dire, entre guillemets, positives du Covid, c'est le fait que la plupart des clubs diffusent, se produisent eux-mêmes avec leurs moyens, et diffusent les matchs, alors avec plus ou moins une bombe de qualité ou de succès, mais enfin, sur les réseaux sociaux, Ça semble, alors, pour certains matchs, ça a eu un succès conséquent, hein, puisque pour le match désignant Carcassonne, il a été annoncé plus de 20 000 vues, pas nécessairement en direct, mais après, avec le streaming, etc. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas là, mais est-ce qu'il n'y aurait pas nécessité que là aussi la fédération peut-être coordonne tout ça, et qu'il n'y a pas là une possibilité intéressante peut-être d'aider les clubs ou de coordonner l'ensemble de tout ce que font les clubs pour peut-être donner une visibilité en attendant que de pouvoir approcher des chaînes de télévision de façon, on va dire, entre guillemets, plus professionnelle.
Vous avez 1000 fois raison. Un, le travail qui a été fait, et qui est lié effectivement à cette période Covid, le travail qui est fait par les clubs d'élite 1, d'abord, doit être loué, doit être applaudi. Ils se sont remis en question, ils ont eu une certaine forme d'agilité, comme on dit, et franchement, ce qui est fait, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que ils le font de leur côté, ils ont trouvé les équipes, ils ont trouvé des techniques pour faire la captation, comme on dit. Donc, honnêtement, ils se sont bougés. Et à ce titre-là, d'abord, il faut les remercier, il faut les encourager, et c'est plutôt bien. Alors, vous avez raison aussi de dire que c'est plus ou moins qualitatif en fonction de tel ou tel match, etc. Deuxième point, vous avez raison aussi de dire que certains matchs ont, ma foi, une audience qui n'est pas neutre. Effectivement, je crois qu'il y a eu un Carcassonne-Lézignan qui est monté à 20 000 vues. Alors attention, parce que ça veut tout dire et pas tout dire. Hein, le nombre de vues, c'est effectivement pas forcément en direct, c'est pas forcément la totalité du match, etc. etc. Mais au demeurant, il y a quand même un petit retentissement. Tout ça, il faut le professionnaliser. Et donc, au sein de la fédération, mais ça prend un peu de temps encore quand on veut faire les choses bien, nous sommes en train de réfléchir à la création, effectivement, d'une web plateforme ou web TV, où finalement, on viendrait soulager les clubs de cette chose-là, et surtout, on rendrait la qualité de ce qui est produit un peu supérieure, parce que là encore, si on veut donner de la visibilité, de la notoriété, etc., etc., il faut qu'on standardise un peu plus ce qui se passe d'un point de vue de la visibilité. Je m'explique. Il faut réussir, et je l'avais dit, à standardiser un peu notre événement dominical. Nos matchs du dimanche. Et à la télé, vous le voyez bien, par exemple, il y a l'interview d'avant-match, il y a la diffusion de la feuille de match, il y a l'interview ou ce qui se passe à la mi-temps, il y a les interviews de fin de match, etc., etc. Tout ça, quand vous êtes à la télévision, c'est normé. C'est parfaitement préparé. Et c'est ce que nous sommes en train de préparer en nous posant les questions de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire, pour faire en sorte que l'ensemble des matchs d'élite 1, dans un premier temps, puisse être retransmis sur le web, mais de manière un peu normée, pour qu'on ait finalement un championnat lisible, d'un point de vue télévisuel ou web télévisuel. Tant que chacun fait tout un peu de son côté, c'est très bien, et on ne peut que quand même les encourager, parce que, vous savez, ils se battent, hein, ils se battent, ils n'ont pas de public, ils se battent. Donc, de ce côté-là, déjà, d'avoir mis un pied là-dedans, c'est super. Nous, on va essayer de faire en sorte d'élever le niveau, c'est pas forcément le bon terme. On va essayer de normer un peu tout ça, et ça pourra peut-être passer directement par la fédération, plutôt que chaque club le fasse de son côté. En tout cas, on est en train d'y réfléchir, et on va en parler avec les clubs d'élite 1, hein. Et puis j'espère à terme avec les clubs d'élite 2, pour qu'ils puissent être aussi un peu retransmis. Mais il faut normer tout ça. Il faut rentrer dans des critères un peu plus, tous les mêmes, de la même manière.
Président, le temps le retourne, puisqu'il y a un Guillaume sur son fauteuil qui doit sursauter.
Je vais vous laisser avec lui.
Une question un peu indépendante. Est-ce qu'avec la RFL, Vous avez parlé du cas de Toulouse, et je reviens au Dom Catalan, puisque de l'année dernière, nous n'avions pas droit à visionner sur le e-sport la Super League. Est-ce que vous avez discuté maintenant la possibilité de retrouver sur les antennes de l'e-sport la Super League, puisqu'on avait une lecture des matchs de la Rome Catalan et par intermittence de la Championship. Est-ce que vous avez des informations éventuelles à nous donner, bien que ça dépende surtout de l'e-sport?
Ça dépend de Bein, ça dépend pas que de Bein, ça dépend de Sky, ça dépend de plein de choses sur lesquelles malheureusement nous ne pouvons pas beaucoup intervenir, nous, d'autant qu'en plus c'est un championnat qui ne concerne pas la fédération française, etc. C'est un sujet dont vous savez qu'il me soucie beaucoup. Et il me soucie parce que ceux qui font l'audience aussi élevée du rugby à 13 français, ce sont les Dragons et le Théo. Là encore, on est en train d'envisager plusieurs pistes, mais honnêtement, pour l'instant, non, rien n'est réglé de ce côté-là. Rien n'est réglé de ce côté-là. Ouais, c'est difficile. C'est difficile. Bon, bah, il va falloir qu'on trouve des solutions, hein, mais pour l'instant, c'est difficile.
Bien, président, je propose qu'on vous retrouve un peu plus tard dans la saison pour continuer à discuter, parce que, bon, le retour, Nicole doit contacter
Jean-Guyen. Je crois qu'on peut garder le président on peut le garder.
Éventuellement, apporter
quelques... Si vous voulez, je peux rester, mais je peux rester si vous voulez, mais j'écouterai particulièrement M. Guillaume. Sûr, mais parce je vais essayer de ne pas prendre la parole.
Parce que j'ai encore des questions à vous poser, donc c'est pour ça que...
Ah ben non.
Eh oui,
ah
mais
non.
Denis, t'as vu, le retour de Bogue.
Non, je vous quitte quand même, qui est lié au Covid, et donc voilà, c'est important.
Mais c'est Guillaume qui va nous répondre, je pense, sur cette partie-là.
Oui, mais
pour ma part, j'en sors. Pour ma part, j'en sors.
Voilà, bon. Alors, Nicole, on va essayer de retrouver Jean-Guillaume, en attendant que Nicole appelle Jean-Guillaume. Denis, on a quand même un programme ce week-end sur Radio Marseillette, est-ce que tu peux le détailler?
Alors, d'abord, le programme général, demain après-midi, il devait y avoir un match au sommet, qui devait se dérouler à Saint-Estève, qui devait opposer Saint-Estève-Catalan à Villeneuve, sur Lot. Bon, le match, malheureusement, est reporté, puisque les Villeneuvois ont un ou deux cas de Covid, enfin ils sont touchés par le Covid, donc le match est reporté. Donc ensuite, c'était prévu à 15h, donc c'est annulé. Ensuite, à 16h30, il y a Albi qui reçoit le Feusse Lézignan. Donc normalement, nous serons en direct, nous aussi. Alors nous ne pouvons pas le promettre à 100%, mais nous ferons le maximum pour être... pour présenter ce match en direct. Ça, c'est pour demain après-midi.
Dimanche après-midi... à ce propos, Denis, bon, j'ai demandé à Lézignan qu'il nous donne un numéro, quelqu'un sur place, et bon, apparemment, il doit être intéressé, parce que personne ne m'a appelé.
On verra, on essayera de faire d'une autre façon.
On verra demain.
On essayera de se débrouiller, on a l'habitude de se débrouiller à Radio Marseillette. Et donc, pour dimanche, il y a trois matchs au programme, un que vous pourrez suivre sur Radio Marseillette en direct et en intégralité, c'est le match entre Carcassonne et le Toulouse Olympique, la Broncos, la réserve du Théo. Ça, à partir de 15h dimanche, sera en direct sur Radio Marseillette. Tout le long de ce match, en même temps, se déroulera à Saint-Gaudens la rencontre entre Saint-Gaudens, qui relève la tête, et le 13 de Limoxin. Et là, nous ferons, Roger, tu nous feras des points réguliers sur cette rencontre également, donc dimanche à 15h, donc en même temps. Et ensuite, le dernier match se déroulera à Palau, là nous n'y serons pas, malheureusement nous ne pouvons pas être partout, mais il y aura Palau, les Broncos de Palau qui recevront le SO Avignon. Donc voilà le programme de ce week-end, donc sur Marseillette, trois matchs en principe. Un demain après-midi, 16h30, Albi-Lézignan, sous quelques réserves. Dimanche après-midi, deux matchs. Un en intégralité, Carcassonne-Limoux. Et des points réguliers sur... Carcassonne-Toulouse.
Carcassonne-Toulouse Olympique.
Voilà, Olympique. Et ensuite, le deuxième match, des points réguliers sur Saint-Gaudens, le 13 de Limoux. Voilà.
Nicole, avons-nous...
Monsieur Guillaume est là, oui.
Oui. Jean-Guillaume, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Jean-Guillaume.
On vous entend très loin. On vous entend très loin. Alors, Jean-Guillaume, vous êtes à la commission médicale de la Fédération française de la 13. Alors, et ces compétitions, pour le moment, à part l'élite 1, bon, on ne sait pas trop où on va à cause de ce Covid. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus?
Ben oui, ben vous savez, nous vivons une période un peu compliquée avec la pandémie, effectivement. Alors les professionnels ou les clubs considérés comme professionnels et qui respectent des contraintes sanitaires assez strictes peuvent participer, peuvent dérouler leur championnat. Par contre, effectivement, les équipes amateurs, le sport amateur est enfermé dans le confinement et nous avons essayé de mettre en place une possibilité de sortie de ce confinement dans lequel est bloqué l'élite 2 et l'élite et les équipes et les divisions fédérales et nationales en essayant de programmer une reprise éventuelle du championnat au 15 mars. Mais c'est très compliqué, nous attendons avec impatience les nouvelles contraintes sanitaires que va nous dicter le gouvernement dans les jours à venir. Et notre décision est suspendue à l'autorisation ou non de commencer des entraînements collectifs et de se préparer pour une éventuelle reprise à la mi-mars. Voilà les conditions. Donc conditions difficiles, mais qui touchent tout le sport amateur et qui touchent aussi le sport professionnel, puisque le sport professionnel est quand même très enfermé dans des contraintes sanitaires assez dures et assez contraignantes, notamment pour des clubs semi-amateurs comme sont les clubs de rugby à 13.
Oui, monsieur Guillaume, si par exemple c'était rendu impossible de reprendre pour ces compétitions, pour les divisions que vous avez citées, mi-mars, est-ce qu'il est envisageable de pouvoir reprendre plus tard, soit mi-avril, quitte à revoir les compétitions je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres solutions, est-ce qu'il y a d'autres plans que celui de reprendre au mois de mars, parce que là, on est début février, en confinement, semble vous êtes plus au courant que moi, hein, semble se profiler, donc mi-mars, ça semble de plus en plus compliqué. Est-ce que d'autres possibilités peuvent exister?
Ben, il y a toujours des possibilités et nous ferons tout en fonction des contraintes sanitaires pour que le... en tout cas, nous ferons tout, nous discuterons tout avec tous les clubs, puisque les propositions que nous avions faites ont été discutées déjà avec un certain nombre de clubs à l'intérieur de la commission de l'ALER, et dont nous avions fait des propositions en demandant aux clubs de choisir entre plusieurs options. Je suis optimiste. Et je fais partie des médecins relativement optimistes. Je me dis que ce déconfinement ou cette épidémie va à un moment ou un autre nous lâcher un peu les crampons et si nous retrouvons un petit peu d'espace et si nous avons des autorisations pour pratiquer le rugby à 13 et nous sauterons sur toutes les occasions pour préserver la saison et pour faire en sorte que, même si la saison 2020-2021 est une saison très courte, on aimerait bien qu'il y ait quelques matchs qui se déroulent dans cette période, même si c'est avril, mai et juin, puisque la finale de l'élite 1 est prévue le 21 juin ou fin juin, et donc il resterait éventuellement avril, mai, juin pour faire un petit championnat, un mini-championnat qui quand même puisse déterminer un champion de France.
Jean-Guillaume,
Oui, oui, par rapport, juste une précision, vous, dans, quand vous avez cité les diverses divisions, vous n'avez pas parlé des juniors. Je pense que les juniors, vous les incluez également dans ce... Dans cette optique.
Oui, alors oui, bien sûr. Alors les juniors, le problème s'était posé et nous avons bien sûr réfléchi au problème des juniors. Nous avons réfléchi à toutes les divisions, féminines et aux 13 fauteuils, bien évidemment. Le 13 fauteuil étant très compliqué parce que eux jouent à l'intérieur et donc c'est encore plus contraignant. Mais en ce qui concerne les juniors, deux options s'étaient présentées. Soit les juniors suivaient les équipes élite 1 et continuer à terminer le championnat en fonction des matchs de l'équipe de leurs équipes élite 1, hein, puisque chaque équipe junior est accrochée, je dirais, à une équipe élite 1. Voilà, donc il y avait plusieurs options qui étaient faites, soit faire un championnat, soit refaire un championnat de poule ou refaire un championnat sous une forme un peu originale, soit alors continuer le championnat en accrochant les équipes juniors à leur équipe première et faire en sorte que ben, le championnat se termine comme en étant amputé de toute une partie de première partie de la saison. Voilà. Donc c'est des options que nous proposons, que nous proposerons ou que nous proposons aux clubs, et ce sont les clubs qui choisiront, puisque notre politique. Et je pense que Luc Lacoste vous le dira, ou vous l'a peut-être déjà dit, notre politique est de faire en sorte que ce soit les clubs qui choisissent leur façon de terminer le championnat.
Jean-Guillaume, n'est-il pas envisageable, on a l'exemple des Dragons et des GTO, de décaler par exemple d'un mois la finale et de la faire au mois de juillet?
Tout est possible, tout est possible. À condition que les clubs le décident, que les clubs soient d'accord et qu'il y ait une vraie possibilité d'inventer une fin de championnat, quelle qu'elle soit, de manière à ce qu'il y ait du rugby à 13, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, et pourquoi pas au mois de juillet. Tout est possible. Tout est possible. Nous ne restons fermés à aucune option. Et tout sera réfléchi, réimaginé, recalculé en fonction des prochaines contraintes sanitaires proposées ou imposées par l'État.
D'accord. Denis, dernière question.
Oui, une question. Alors, je pense peut-être M. Lacoste, s'il est toujours avec nous, ou Jean-Guillaume, je ne sais pas, qui est lié évidemment au Covid, mais c'est l'aide au club, puisque... Bon, tout se termine malheureusement par de l'argent et par le soutien dont ont besoin les clubs, aussi bien peut-être les clubs d'élite 1 qui jouent alors qu'ils n'ont plus de recettes, ni de à l'entrée, ni de buvettes, et les petits clubs des autres divisions aussi qui sont même à l'arrêt, n'ont plus rien. Est-ce qu'il y a des possibilités encore au niveau de la fédération de venir en aide, de contribuer à aider les clubs ou d'obtenir des aides de la part de jouer l'intermédiaire pour obtenir des aides de la part des pouvoirs publics?
Alors, vous me pardonnerez, pardonnez-moi de reprendre la parole là-dessus.
C'est bon, je me doutais que ça, je vous disais, j'aurais une question pour vous.
Je ne suis pas un homme d'argent. Donc, tout ce qui concerne cette problématique, c'est Luc Lacoste qui le gère. Vous le savez bien.
Écoutez, cette problématique, effectivement, elle est gérée par moi, mais également par notre DTN, Jacques Plat, dont d'ailleurs, je vous informe qu'effectivement, on l'a renouvelé. Donc, son contrat de DTN est arrivé à terme, mais on l'a renouvelé avec grande fierté. Effectivement, nous sommes rentrés, et nous rentrons dans des négociations très fines, avec l'État, dans le cadre des aides que met en place l'État pour globalement le sport. Mais je dis bien globalement parce que c'est pour tous les sports. L'État a défini une enveloppe et dans le cadre de cette enveloppe, on essaye de récupérer le maximum de sous. Il se trouve qu'il y a deux choses. Il y a ce que l'on appelle le haut niveau et ce qui n'est pas du haut niveau. Donc a priori, l'État, au départ, avait défini une enveloppe pour le haut niveau. Et le haut niveau, chez nous, ça concernait l'élite 1. Bon. Ah, c'est bien beau, mais moi, je voudrais pouvoir étendre cette partie-là, notamment aussi à l'élite 2, dans un premier temps. Donc, on est en train d'arriver à faire en sorte que l'État considère l'élite 1, ça c'est une chose, mais également l'élite 2. Et on a déposé un dossier dans ce sens-là, et j'ai bon espoir qu'effectivement l'élite 2 soit aussi considérée. Un dossier a été envoyé par le DTN à l'ensemble des clubs, etc., etc. Pour ce qui est des autres clients, inutile de vous dire que toute la journée, j'ai des coups de fil de clubs qui me disent « on a un problème là, on a un problème ci, on a un problème ci, on a un problème ça », toujours lié au Covid. Donc oui, la fédération devra faire un effort. Et la fédération devra aider les clubs. Pour l'instant, je suis en train de faire établir ce que l'on appelle une situation pro forma des comptes de la fédération au 31/12/2020. Pour voir et comprendre quelle est la situation et quelles sont les réserves que je peux véritablement avoir et comment je vais pouvoir aider les clubs dans la foulée, alors peut-être pas immédiatement, mais comment je vais pouvoir aider les clubs, notamment financièrement parlant. Est-ce que ce sera des subventions, entre guillemets, ou des montants financiers sur l'exercice? Est-ce que ce sera des révisions des engagements pour l'année prochaine pour essayer de... Pour l'instant, ça n'est pas défini. Mais ce que je peux vous dire, ce que je peux dire aux auditeurs, c'est que bien évidemment qu'il faut que la fédération aide les clubs. Parce que sinon, pour certains, ça va être aussi très compliqué. Alors attention, hein, comme les clubs tournent moins, ils ont aussi moins de charges. Donc tout est dans tout. Mais ce qui est clair, c'est qu'on est en train de définir. Mais pour pouvoir dire aux clubs comment on va pouvoir les aider, encore faut-il que j'ai une situation très fine fait par notamment l'expert comptable, commissaire aux comptes de la fédération, au jour d'aujourd'hui, au jour de notre arrivée, pour savoir exactement là où nous en sommes à fin décembre, et à partir de là, essayer d'extrapoler ce qui va se passer au 30 juin, et en fonction des sous qu'on aura, comment on va pouvoir aider les clubs.
Dernière question, Roger.
Oui, dernière question, Denis, oui.
Oui, oui, alors qui n'a rien à voir avec le Covid, c'est la question concernant l'entraîneur de l'équipe de France. Bon, nous avons appris avec surprise, il y a quelques semaines, sur cette antenne, par Aurélien Colny lui-même, que pour l'instant, tout était en suspens. Donc, est-ce que la décision devait être prise au courant janvier, Monsieur le Président? Est-ce que vous avez avancé là-dessus, avec la commission du haut niveau, ou pas encore?
Alors, bien évidemment qu'on avance. J'avais effectivement dit que je prendrais des décisions aux alentours du 25 janvier. Et j'avais dit fin janvier. Effectivement, pour l'instant, je n'ai pas pris de décision. D'abord parce que je n'ai pas tous les retours de la commission au niveau qui fait actuellement les audits sur l'ensemble des équipes de France. J'ai pas qu'un problème, j'ai pas qu'un sujet équipe de France. Ah, hein, j'ai les féminines, il y a le 13 fauteuil, il y a les U17, U19, etc. Donc moi, comme j'avais dit, je veux traiter le club France dans son ensemble. Et pour l'instant, je n'ai pas le retour sur l'ensemble du Club France, etc. Se posent encore des questions diverses et variées, des problématiques de stage, des problématiques de signal. Hein. Donc j'espère être en mesure, et mes amis de la commission au niveau vont dire que je leur mets la pression, mais j'espère effectivement avoir le retour des audits d'ici une semaine, et être en capacité, au travers d'une conférence de presse, de faire des annonces d'ici une petite semaine. Mais pour l'instant, effectivement, rien n'est décidé.
Oui,
et vous voulez que je vous dise, je ne veux pas me précipiter, parce que ce serait une erreur de vouloir se précipiter. Certes, on a la Coupe du Monde qui devrait se jouer fin octobre-novembre. Je dis qui devrait, parce qu'à l'heure qu'il est, la décision n'est pas totalement prise, elle serait prise théoriquement en mars, en fonction, là encore, des conditions sanitaires, des conditions sanitaires, pas que pour la France, des conditions sanitaires sur l'ensemble de la planète. Parce que, regardez par exemple, les Dragons catalans vont démarrer leur championnat le 25 mars. Le Théo va démarrer son championnat le 2 ou le 4 avril, une semaine plus tard. Ils ont été obligés de supprimer quelques matchs pour pouvoir passer dans un calendrier qui permet aux joueurs des Dragons et du Théo de pouvoir être libres, enfin des joueurs des Dragons, des Théo, de la Super League et des Championships, de pouvoir être disponibles pour la Coupe du Monde. Ils ont été obligés de supprimer des matchs. Je crois qu'il y a 4 matchs en moins. Ils ont été assez agiles d'ailleurs de ce côté-là. Mais parce que sinon ça passait pas. Mais imaginez qu'il y a un problème à l'autre bout de la planète et que effectivement les championnats soient pas finis au moment de la Coupe du Monde. Bah, la Coupe du Monde, ça va être le bazar. Donc tout ça, ce sont des négociations entre l'IRL, l'ERL, la Super League, les championnats étrangers, etc. Donc c'est vraiment ce Covid. Il pose des contraintes partout et j'avoue qu'il faut être hyper agile et de prévoir exactement l'avenir. Ce qui veut dire que moi, par rapport à l'équipe de France ou aux équipes de France, je suis à la fois pressé et je mets un peu la pression à la commission au niveau. Je suis un peu pressé parce que je veux, à un moment, il faut décider parce qu'il faut se préparer. Mais d'un autre côté, rien ne sert non plus d'aller trop vite si c'est pour faire des bêtises. Donc voilà, je prends le temps et une fois que j'aurai toutes les questions que j'ai posées, que j'aurai des réponses, eh bien je ferai des arbitrages. Voilà.
Très bien, bon, eh bien très on bien. Va remercier monsieur Lacour. Je propose, Denis, qu'on retrouve les instances fédérales pour pouvoir mettre en place un petit rendez-vous régulier, pas d'une heure trente, comme aujourd'hui. Hein.
Ah non, ça va pas durer 1h30, voyons.
Une heure vingt-neuf. Voilà, bon, pour avoir des nouvelles intéressantes pour les clubs. Merci.
Quand vous le voulez.
Monsieur merci Lacoste, merci Monsieur Guillaume.
Merci messieurs.
Merci. Et donc, à très prochainement. Voilà, Denis, on va conclure, mais on va donner quand même quelques informations. La semaine prochaine, bon, on a été obligé de chambouler un petit peu le canevas de 13 passions. La semaine prochaine, nous devrions recevoir Jacques Rodriguez, qui a beaucoup de choses à nous dire, le nouveau président du comité d'ordre de la Pèse. Mais nous allons, avec son accord, je vais le contacter, décaler ce rendez-vous, pas ce vendredi prochain, mais l'autre, de manière à ce qu'il ait le temps nécessaire pour s'exprimer, parce que nous aurions dû avoir aujourd'hui Rémi Carty. Nous l'aurons la semaine prochaine. Nous allons vous concocter un spécial Rémi Carty. Et je pense qu'il va être très, très, très intéressant de lire.
Exactement. Et je pense que, voilà, un rugby league, un rugby en 13 passions, pardon, qui...
Oui, le French Oral aussi.
Chaque semaine est très intéressant. Juste une dernière chose, Roger, parce que je m'en voudrais de ne pas le faire. Simplement pour signaler à nos auditeurs et aux trésistes que le Feu Lézignan a lancé une cagnotte pour aider à la diffusion des rencontres, hein, puisque sur Internet, ça coûte, etc. Donc, bon, comme on s'en voudrait, dans le passé, nous avons eu l'occasion de également pour un autre club qui avait lancé une cagnotte, bien de le dire sur l'antenne. Là, bon, nous le disons aussi, nous l'annonçons aussi. Donc, si vous voulez venir en aide au Feu Lézignan, par-delà les aspects de simplement de supporters, mais tous les trésistes peuvent venir en aide, non, pour justement permettre au Feu Lézignan, et peut-être ça, dans tous les cas, dans ce cas-là, pour diffuser les images des matchs joués au Moulin, eh bien, vous pouvez donc... alors, vous allez sur le site de Lézignan, le site internet de Lézignan, vous avez toutes les informations pour verser à la cagnotte. Voilà, Roger, je ne dirai plus rien, voilà.
Alors, j'ai autre chose à dire, moi, quand même, bon, Denis, tu es en train de mettre en place le 13 dans l'histoire, certainement que ça commencera peut-être vendredi prochain ou vendredi en 15.
Voilà, oui, ça dépendra un peu, ça sera une rubrique aléatoire, on va dire, hein, qui viendra un peu en fonction des invités que nous aurons, etc., de l'importance de ce qu'ils ont à dire, etc. Bon, ben, nous aurons cette rubrique, hein, qui parlera de l'histoire, hein, du rugby à 13 qui se basera un peu sur mon livre, en parlant évidemment de ces premières années d'existence. Voilà.
Voilà, eh bien on va dire merci aux nombreux éditeurs qui nous écoutent. Alors je rappelle que aussi, vous pouvez désormais, je crois à partir de lundi, mardi matin, vous pouvez écouter en replay cette émission, pour ceux qui ne pouvaient pas la prendre en direct ou la réécouter, donc le replay de Radio Marseillette, je pense à partir de lundi au mardi. On va remercier Nicole, qui évidemment, il faut qu'elle rentre, elle a ce qu'il faut. Elle a l'attestation et tout, risque rien. Mais bon, la pauvre, là, à cause des loups qui circulent en bûcherie, il faut laisser rentrer quand même, n'est-ce pas, Denis?
Oui, exactement. On se donne rendez-vous demain à 16h30 avec Roger, Nicole. On se retrouve, on espère pouvoir vous faire vivre cette rencontre qui s'annonce passionnante entre Albi Rugby League et le Feusseux Lézignan. Et puis, nous également, dimanche à 15h, voilà, des beaux matchs de rugby à 13 en direct sur Radio Marseillette. Hein.
Ciao, voilà. Ciao, à demain après-midi.
Ciao, bisous.
Bonsoir à tous, bonsoir Nicole.